Bonjour à tous. Vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi pour la co-présentation. Bonjour Rosine.
Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de la rougeole.
Ça fait partie des maladies infantiles, mais généralement à partir de 6 mois chez les enfants d'âge préscolaire. Les adultes qui n'ont pas fait la rougeole pendant l'enfance, ils peuvent également contracter la maladie.
Un vaccin contre la rougeole existe et permet de protéger les enfants. Pourquoi y a-t-il malgré tout des épidémies? Nous avons posé la question à un spécialiste.
En principe, pour éviter l'épidémie, il faut que 92 ou 95% soient couverts. Avec une couverture même à 80%, on aura une possibilité d'avoir une épidémie.
Et comme nous l'entendrons, même si vacciner les enfants permet de prévenir la rougeole, certains parents ne le font pas.
Pour les parents, ça dépend plus du niveau d'instruction. Pour certains, ils pensent que c'est des médicaments, du poison, et ils résistent un peu. Mais le gouvernement est toujours disponible et ils font des campagnes de sensibilisation, parfois même des porte-à-porte, pour vacciner les enfants.
Tout ce qu'il faut savoir sur la rougeole, c'est dans la suite de ce programme. Et pour commencer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
Et l'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Mamadou.
Parlons tout d'abord de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Un centre de traitement a été attaqué par des hommes armés.
Oui, Mamadou, l'attaque s'est produite le 27 février dernier à Butembo, épicentre de l'épidémie de la fièvre hémorragique qui sévit dans cette région de l'est de la RDC. Selon le ministère congolais de la Santé, au moment de l'attaque, 38 patients suspects et 12 patients confirmés étaient pris en charge au centre de traitement. 32 des patients ont pris la fuite et 8 ont été retrouvés dans leur chambre. Tous les patients retrouvés ainsi que le personnel soignant sont sains et saufs. Les patients ont été provisoirement transférés dans le centre de transit de Butembo.
Une attaque firmée qui montre que la riposte contre cette 10e épidémie est particulièrement difficile.
Effectivement, la riposte contre l'épidémie dans la province du Nord Kivu est compliquée par la présence des rebelles armés. Une province en proie à l'insécurité depuis 2 décennies en raison de la présence de divers groupes armés locaux et étrangers. Dans ce contexte, la mobilité de la population est limitée. La riposte se heurte également à des réticences d'une partie de la population envers la prévention, les soins et les enterrements sécurisés des victimes. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 551 décès au total, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publiés le 26 février dernier. C'est le bilan le plus lourd des 10 épidémies qu'a connu le pays.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Parlons maintenant de la lutte contre le paludisme. Une étude publiée le 27 février dernier propose d'imprégner les moustiquaires d'un antipaludien. Pourquoi Firmin?
Parce que selon l'équipe des chercheurs de l'université de Harvard, de plus en plus de moustiques développent des résistances aux insecticides utilisés sur les moustiquaires. L'utilisation d'insecticides sur les moustiquaires fait partie depuis des années de l'arsenal recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour éviter les piqûres de moustiques infectées par le paludisme. Les 2/3 de la baisse des infections dans le monde depuis 2000 auraient été obtenues par ce biais, selon une étude datant de 2015. Cependant, l'OMS a mis en garde en novembre dernier contre la stagnation ces dernières années d'une épidémie qui a touché 219 millions de personnes et fait 435 000 morts en 2017.
Et en quoi imprégner les moustiquaires d'antipaludiens serait différent de l'imprégnation aux insecticides comme c'est le cas actuellement?
Selon les chercheurs, imprégner les moustiquaires d'antipaludiens permet non pas de tuer les moustiques, mais d'éliminer le parasite responsable de la maladie dont ils sont porteurs. L'antipaludien en question est l'atovacone, utilisé chez l'homme en prévention et en traitement du paludisme. Les recherches n'en sont toutefois qu'à un stade préliminaire et l'apparition de résistance à l'atovacone chez les parasites est toujours un risque, reconnaissent les chercheurs. La perspective d'une résistance à l'atovacone serait inquiétante car ce médicament est central pour soigner le paludisme. Pour éviter, Mamadou, ce problème, les auteurs suggèrent de mener des recherches avec des médicaments qui ont des mécanismes d'action différents pour éliminer le parasite.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comment comme annoncé au début de ce programme, cette semaine nous parlons de la rougeole. Cette maladie est l'une des causes importantes de décès du jeune enfant dans le monde et ce, malgré l'existence d'un vaccin. En RDC, par exemple, deux flambées de rougeole ont eu lieu dans les provinces du Haut-Lomami et de Lualaba. Pour le seul mois de janvier 2019, ces deux provinces ont enregistré plus de 7000 cas de rougeole et au moins 137 décès selon les Nations Unies. Pour en savoir davantage sur cette maladie, nous recevons comme invité le docteur Gaylord Mutoke. Il est médecin en pédiatrie aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Tout d'abord, il nous parle des causes et des signes caractéristiques de la rougeole. Il est au micro de notre correspondante Gabrielle Nina.
Alors la rougeole, par définition, c'est une fièvre éruptive très contagieuse. Alors la contagion, elle se fait pendant toute la phase d'invasion jusqu'à ce qu'il y aura l'éruption de manière complète. La rougeole est causée par un virus, le morbillivirus. Alors la rougeole, c'est une maladie qui évolue de manière chronologique. Après donc un contact, nous avons une période d'incubation. Elle est muette, ça signifie qu'on n'a pas tout de suite des signes et qui dure environ 12 jours. Après, on va suivre la période d'invasion qui dure à peu près 3 à 4 jours et qui cette fois-là va se caractériser par une fièvre, donc une température très élevée, autour de 40 degrés Celsius, avec ce que nous appelons un catarrhe, c'est-à-dire un écoulement au niveau des yeux, un larmoiement, au niveau des narines, donc une rhinorrhée, et même au niveau de l'arbre respiratoire, donc au niveau bronchique. Et cela va se manifester notamment par une toux. L'enfant, par ailleurs, peut présenter donc des douleurs au niveau du ventre et parfois même des vomissements. Alors, à ce stade de la maladie, il faut noter que le seul symptôme spécifique, c'est notamment des taches qu'on va retrouver au niveau endobuccal. Vient maintenant la phase d'éruption, où nous aurons maintenant les lésions qui vont apparaître. Et cela, généralement, c'est autour du 15e jour après contact, de manière évolutive, d'abord derrière les oreilles, en progressant vers tout le reste du corps.
Et comment s'est transmet ou s'est contaminé la rougeole?
La rougeole s'est transmet par voie respiratoire, essentiellement. Donc à partir des gouttelettes de salive. Si dans un milieu il y a quelqu'un qui a la rougeole, la contamination va se faire par la voie aérienne.
Et quelles sont les personnes à risque?
Comme je l'ai dit, ça fait partie des maladies infantiles. L'enfant, quand il vient au monde, il jouit donc de la protection des anticorps maternels. Mais généralement, à partir de 6 mois, les anticorps maternels, ils commencent à progressivement diminuer pour que l'organisme de l'enfant de lui-même prenne le relais. Lorsque nous avons dépassé le cap de 6 mois, généralement, on dit que c'est une maladie qui survient chez les enfants d'âge préscolaire. Des adultes qui n'ont pas fait la rougeole pendant l'enfance ou alors chez des adultes qui ont un système donc d'immunité diminué. Ils peuvent également contracter la rougeole à la période adulte. Donc cela est en rapport avec le système immunitaire.
Quelles sont les complications possibles de la rougeole?
Les complications peuvent être liées au virus de la rougeole. C'est notamment les pneumopathies. Alors en dehors de ça, on peut avoir des surinfections bactériennes.
Et comment soigne-t-on la rougeole?
Alors le traitement de la rougeole, il a deux volets. Il y a le traitement, comme c'est une maladie virale, donc le traitement curatif, il est symptomatique. Ça signifie qu'on va soigner les signes que l'enfant va présenter. S'il fait de la fièvre, on lui donne un antipyrétique. S'il tousse, on va lui donner un antitussif. On recommande aussi au moment de donner beaucoup de boissons, surtout quand l'enfant fait de la fièvre. Mais un élément important, c'est ce qu'on administre aussi, la vitamine A. Parce que les enfants qui ont des carences en vitamine A sont susceptibles aussi de faire la rougeole. Le grand traitement reste le traitement préventif. C'est notamment le vaccin. Dans les pays nantis, le vaccin s'administre généralement entre 12 et 15 mois, avec des rappels. Donc, à l'âge de 3 et 6 ans, on donne encore un vaccin. Mais dans notre milieu, dans notre calendrier vaccinal, le vaccin est administré à l'âge de 9 mois. Comme on n'a pas beaucoup de moyens, on ne sait pas faire forcément des rappels. Donc on se limite juste à donner ce vaccin-là à l'âge de 9 mois.
Et comment éviter d'attraper la rougeole?
La rougeole, c'est une maladie qui arrive par épidémie. Ce qu'on recommande généralement, c'est faire des évictions. Ça signifie que si un enfant fait de la rougeole, ce qu'on fait, c'est qu'on le retire des autres enfants pendant une certaine durée. Généralement, je crois que c'est 7 jours qu'on recommande, qu'il ne soit pas en contact avec les autres enfants pour qu'ils ne les contaminent pas.
Nous remercions le docteur Gaylord Mutoke. Il est médecin en pédiatrie aux cliniques universitaires de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Le vaccin contre la rougeole réduit les risques de contracter la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 2000 et 2016, la vaccination anti-rougeleuse a évité plus de 20 millions de décès, faisant de ce vaccin le meilleur investissement dans la santé publique. Mais de nombreux enfants ne sont toujours pas vaccinés. Et pourquoi? Élément de réponse avec le docteur Moutaza Lusungu Baba. Il est médecin traitant à la Polyclinique Recherche Santé Plus de Beni en RDC. Il est au micro de notre correspondant Ericas Mouissi.
Docteur Baba Moutaza Lusungu, bonjour.
Bonjour.
La rougeole est un problème des santé publique ici à Beni et dans le Nord Kivu en général?
Oui, c'est un problème. Vous voyez, qui attaque souvent les enfants des moins de 5 ans. C'est un problème de santé publique par rapport à sa fréquence, n'est-ce pas, dans notre milieu.
Et quelles sont les opérations menées en ville de Beni et dans la région pour combattre la rougeole et comment jugez-vous leur efficacité?
Je crois que dans notre calendrier vaccinal, n'est-ce pas, l'État congolais prévoit que les enfants, les nourrissons reçoivent les vaccins contre la rougeole, n'est-ce pas, à partir du 9e mois. Mais dans les cas, lorsque les épidémies se présentent, on vaccine même à partir du 6e mois. Et je pense que cela est efficace dans la mesure où, n'est-ce pas, les épidémies ou les épisodes d'épidémie s'éloignent et les cas sont de plus en plus rares quand même.
Est-ce que cette campagne s'est fait appropriée par les parents?
Surtout par les gouvernements. Par les parents, ça dépend plus du niveau d'instruction. Pour certains, ils pensent que c'est des médicaments, du poison, et ils résistent un peu. Mais le gouvernement est toujours disponible et ils font des campagnes de sensibilisation, parfois même des porte-à-porte, pour vacciner les enfants.
Et que doit faire un parent en ville de Beni qui constate que son enfant n'a pas été vacciné contre la rougeole et qui souhaite le faire? Où vaccine-t-on et comment cela se passe?
Déjà, comme je viens de dire, le vaccin contre la rougeole, c'est un vaccin qui est dans le calendrier de l'enfant, n'est-ce pas? On sait que l'enfant, avant une année, il faut qu'il ait fini tout le calendrier vaccinal. Et au 9e mois, il reçoit les vaccins contre la rougeole. C'est-à-dire que les parents, ce qu'ils font en premier lieu, n'est-ce pas, c'est suivre le calendrier de l'enfant. Quand l'enfant naît, il doit faire les consultations, les CEPON, comme on dit. Après cela, si l'enfant a raté, il faut qu'il reste en contact sur les médias, les zones de santé, fait passer beaucoup de messages. Quant à ça, il y a beaucoup de campagnes de vaccination qui arrivent. Et lorsque les messages passent, les gens font porte à porte. Et à ce moment-là, l'enfant peut recevoir les vaccins.
Y a-t-il des obstacles particuliers à la vaccination et à la lutte contre la rougeole dans la région? Si oui, lesquels?
Oui, je voudrais dire, les premiers obstacles, c'est avant tout la désinformation. Vous savez, aujourd'hui, les gens interprètent tout de tort et à travers. Parfois, les parents résistent parce qu'ils pensent que ces vaccins, c'est du poison contre les enfants. Mais il ne faut pas oublier aussi la situation sécuritaire du pays. Lorsque les campagnes de vaccination commencent, il y a certains endroits où les vaccinateurs ne peuvent pas accéder à cause de la situation sécuritaire. Et cela préjudicie les enfants. Et c'est par là que nous trouvons des foyers d'épidémie, des rougeoles qui se propagent après jusqu'au niveau de périphérie de la ville.
Un dernier commentaire sur la rougeole.
Je voudrais dire que c'est une maladie que l'État congolais s'y met pour éradiquer grâce aux partenaires et surtout à la coordination de la zone de santé de Beni et la DPS et le ministère de la Santé. Je crois qu'ils sont sur une très bonne voie. Les intras sont toujours disponibles. C'est gratuit en plus, n'est-ce pas? Et tous les enfants peuvent l'avoir sans difficulté.
C'était le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin traitant à la Polyclinique Recherche Santé Plus de Beni en RDC. Et pour organiser les campagnes de vaccination, le gouvernement s'appuie sur un certain nombre de partenaires nationaux et internationaux, parmi lesquels Médecins Sans Frontières, MSF en sigle. Que fait MSF pour vacciner plus d'enfants au Congo? Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce cadre? Nous avons posé ces questions au coordinateur d'urgence de MSF France en RDC. Il s'agit de John Johnson et il est au micro de notre correspondante Gabrielle Nina.
Quel est le taux de couverture de la vaccination contre la rougeole en RDC?
Ça dépend où vous êtes, en fait. Le taux de couverture, ça varie beaucoup entre les zones rurales et les zones urbaines. Bien sûr, les zones urbaines, ils ont un peu plus couvertes que les zones rurales. On a deux moyens pour déterminer la couverture vaccinale. Il y a la couverture administrative. Ça, c'est plutôt théorique selon le nombre d'enfants vaccinés et les estimations de la population. Et il y a aussi des enquêtes qu'on peut faire pour avoir une vraie idée de le taux de séroprévalence des immunités à la rougeole. Donc, en gros, hein, juste pour être bref, la couverture en RDC, ils ont fait quelques enquêtes et ça varie entre, dans le pire des cas, 50% jusqu'à 80% dans le meilleur des cas. Ça, c'est plutôt pour les enfants de moins de 5 ans. Le vaccin, normalement, ça commence quand les enfants ils ont 9 mois. Donc, on fait cette couverture normalement pour les enfants entre 9 mois et 5 ans.
Et comment se passe la campagne de riposte contre la rougeole en RDC?
MSF, Médecins Sans Frontières, on est impliqué et c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour le ministère de la Santé et ça c'est plutôt pour tous les défis qu'ils ont dans ce pays, surtout l'état de route, surtout les difficultés avec les saisons pluvieuses, les difficultés où il y a beaucoup de zones qui manquent d'électricité et pour le vaccin, bien sûr, il faut garder dans un réfrigérateur. Donc, ça pose pas mal de problèmes quand il n'y a pas d'électricité. Donc, il y a beaucoup de défis, on peut dire, plutôt logistiques, qui compliquent beaucoup les ripostes contre le rougeole. Par contre, la collaboration avec le ministère de la Santé, ça se passe très bien. L'organisation des équipes, qui ont l'habitude de faire ces vaccinations, ils sont très bien formés, ils ont beaucoup d'expérience. Et cette partie, ça se passe plutôt bien.
Vous avez parlé de 50% de la couverture de vaccination contre la rougeole. Est-ce qu'on peut dire que c'est satisfaisant?
Non, on ne va pas dire que c'est satisfaisant. J'ai dit 50% dans le pire des cas. Il y a plusieurs zones en RDC qui ont beaucoup meilleure couverture que ça. Mais non, il y a quelques zones où ils ont très bas couverture. En principe, la couverture pour éviter une épidémie, il faut que environ 92 à 95, pour vous congolais, c'est 92 ou 95% soit couvert. Donc, avec une couverture même à 80%, on aura une possibilité d'avoir une épidémie.
Et quelles sont les zones qui sont mieux servies par rapport aux autres?
On peut dire toutes les zones urbaines, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, tout a une bonne couverture. Les zones qui sont moins couvertes, c'est les régions rurales et surtout les régions qui ont des problèmes d'accès. Donc, la Kasaï, l'Outlomami, les zones qui sont difficiles d'accéder à cause de difficultés d'aller en voiture. Donc, ça, c'est les zones qui posent beaucoup de problèmes et souvent c'est pas juste l'accès routier mais c'est aussi où la population est vive. Il y a beaucoup de monde qui vivent super loin de leur centre de santé et l'hôpital, donc c'est normal qu'ils vont pas profiter de la vaccination.
Quelles sont les stratégies de MSF pour vacciner les populations contre la rougeole?
La stratégie pour MSF de vacciner contre la rougeole en RDC, historiquement, on vient chaque fois il y a une épidémie. Médecins Sans Frontières, nous sommes une organisation d'urgence. Donc notre rôle, c'est vraiment de répondre quand il y a une urgence. Le problème avec cette stratégie, on voit bien que s'il y a une épidémie, c'est déjà tard. Et le temps que ça prend de monter une riposte après la déclaration d'une épidémie, il faut organiser toutes les chaînes de froid, toute ton équipe, toutes les vaccinations. Il y a un délai aussi. Récemment, et de plus en plus, on essaie d'adapter notre stratégie, d'arriver plus précoce. Et parfois, on va essayer de travailler avec le ministère de la Santé pour cibler les zones à risque d'une épidémie au lieu de répondre à une zone qui est déjà en épidémie pendant quelques mois. Donc, la stratégie pour nous de maintenant, c'est vraiment de faire un modeling où on essaie de faire une prédiction. où sera la prochaine épidémie. Et là-bas, on va essayer de travailler plus avec le ministère de la Santé.
Et qu'est-ce qui explique que certains enfants ne se vaccinent pas en RDC?
Je ne sais pas s'il y a une bonne explication, mais il y a certes parfois des réticences par rapport à la population, mais moi je crois que ce n'est pas vraiment des réticences qui bloquent la plupart des gens d'être vaccinés. En fait, à mon expérience, quand je suis dans le terrain, je vois que les gens, ils savent bien qu'est-ce que c'est le vaccin, ils savent bien qu'est-ce que c'est le rougeole, et ils savent que le vaccin peut prévenir le rougeole. Et ils réclament surtout pour cette vaccination. Moi, je pense que c'est plus tout l'historique de, comme j'ai parlé déjà, les gens qui habitent très très loin, qui visitent pas les centres de santé, ou qui a autre chose à faire que de passer le temps en train de chercher le vaccin pour leurs enfants. Ils ont le récolte, ils ont le travail. C'est pas facile en fait pour assurer que tous les enfants soient vaccinés, surtout quand tu habites très très loin de le centre de santé.
Et y a-t-il d'autres obstacles à la vaccination contre la rougeole et comment améliorer la couverture vaccinale contre la rougeole en RDC?
Honnêtement, le plus grand défi pour moi dans plusieurs zones de l'RDC, c'est l'accès routier. C'est la difficulté pour y aller quelque part. Même avec un gros 4x4, c'est difficile d'aller quelque part et c'est difficile pour le ministère de la Santé d'accéder à leur population aussi. Ils se déplacent en moto, ils se déplacent en vélo, mais le temps que ça prend et l'énergie que ça prend, c'est vraiment compliqué. Et j'imagine dans le futur de cet pays, quand ça développe un peu plus et les routes sont bien faites, ça va améliorer la qualité des soins pour toutes les maladies, pas juste le rougeole, mais pour plusieurs autres maladies aussi. Mais à répondre à ton question, pour améliorer la couverture vaccinale, on doit renforcer la vaccination de routine, en fait. C'est pas la réponse d'urgence qui va améliorer la couverture vaccinale. C'est vraiment de renforcer le ministère de la Santé sur leurs activités quotidiennes.
C'était John Johnson, coordinateur d'urgence de MSF France en RDC. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mézéro
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Bonjour docteur, je suis Dido Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir... Ces enfants nés avec le VIH-Sida peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer?
Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement, à savoir que le dépistage doit aussi être précoce. Chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. L'auditeur voudrait aussi savoir s'il y a des soins particuliers que ces enfants doivent bénéficier afin qu'ils grandissent avec une santé de fer. Il faut dans un premier temps savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière. À côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soit pas victime de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Et dans ce soutien psychologique, il faut vraiment un soutien nutritionnel. C'est des enfants qui doivent avoir une alimentation équilibrée associée à une très très bonne hydratation. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient, qui est très appréciable. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions que posait l'auditeur depuis la RDC.
Je suis Kachova Taolia Espérance, docteur, suis en ville de Beni au nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse.
Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmoses cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel. Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vient le VIH-Sida puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH-Sida. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage, parce qu'un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question.
Si vous aussi, vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la rougeole, une maladie virale extrêmement contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Gaylor Moutoke, médecin en pédiatrie aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il nous a permis de mieux connaître les causes, symptômes et la prévention de la maladie. Nous avons écouté le témoignage du docteur Moutassa Lusungu Baba, médecin traitant à Beni en RDC. Il nous a expliqué pourquoi la rougeole reste un problème de santé dans sa zone de compétence. Nous avons enfin écouté John Johnson, coordinateur d'urgence de Médecins Sans Frontières France en RDC. Il nous a parlé de la contribution de son organisation pour la vaccination des enfants au Congo. Nous le remercions d'avoir participé à cette émission.
Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Pero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni, qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Tiro et de Dan Crafton qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de
Mohamed Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé,
c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. 24 heures.